Le village archéologique 2018 présente l'INRAP, les fouilles préventives de l'INRAP, liées à la mer. On peut voir le gyptis dans le port et puis on peut voir des fouilles rue Jean-François Lecat. Alors, tous les Marseillais savent que la rue Jean-François Lecat, elle est sur terre.
Elle est effectivement sur terre. Elle est actuellement bien au milieu de la terre. Il y a même un pâté de maison qui nous sépare complètement de la mer qu'on peut voir dans les bassins de la Joliette. On a d'ailleurs le quai de la Joliette qui est devant. Sauf que jusque, on va dire, à la fin de la première moitié du 19e siècle, on n'est pas du tout sur terre à cet endroit-là. On est en mer. On est devant le cap Titol qui sépare l'Anse de l'Ours de l'Anse de la Joliette, qui ont aujourd'hui complètement disparu du paysage. On distingue encore quelque chose qui s'est passé, puisque entre la rue, le boulevard Schumann et la rue Mazenod, qui est parallèle au bassin de la Joliette, il y a une différence de niveau. Cette différence de niveau, c'est les anciennes falaises littorales, en fait, du littoral, qui bordaient Marseille, en fait, de ce côté-là, juste devant la Major, enfin, en gros, devant la Major.
C'est la construction du port du côté nord qui a fait ça ?
Oui, c'est les premiers grands aménagements de Marseille qui démarrent à peu près à cette période-là. On pense vers 1840, il semblerait que ce soit un petit peu plus tardif. Le vieux port est devenu trop petit, vraiment trop petit pour tous les bateaux qui y arrivent. Donc il y a nécessité, déjà depuis le début du 19e, on sait qu'il y a nécessité de construire un nouveau port. Alors il y a un projet qui est fait vers les Catalans, qui est abandonné, heureusement d'ailleurs pour nous. Et on préfère se consacrer au littoral d'abord de la Joliette et ensuite en partant vers le nord à Ringues et puis en remontant jusqu'à l'Estaque petit à petit. C'est les premiers grands aménagements qui font disparaître ce bout du littoral, qui le transforment en autre chose en fait.
Alors ces fouilles rue Jean-François Lecat, qu'est-ce qu'elles ont produit ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Alors c'est une fouille qui s'est déroulée dans un environnement un peu particulier puisque on est donc en mer, on est même au cœur d'un bâtiment qui était consacré à la mer puisque c'est le bâtiment de la Compagnie Générale Transatlantique qui date, si je me souviens bien, de 1929, qui est un superbe bâtiment art déco qui est réhabilité actuellement et c'est ce qui a motivé cette fouille. Alors l'idée qui soutenait en fait cette fouille préventive, c'était d'essayer d'y retrouver des épaves. Le diagnostic archéologique qui a été mené par Séverine Scalisi, donc qui est une de mes collègues, a eu le mérite de mettre en évidence une première épave. Mais quand on a démarré la fouille, quasiment 2 mois plus tard, on a découvert non seulement une petite épave, mais 2 autres, et des bouts de grands bateaux en fait, qui étaient éparpillés sur ce qui était, avant le bassin de la construction des quais de la Joliette, le fond marin.
Le musée de Marseille a de nombreuses épaves. D'ailleurs, il y a un problème de conservation. Ce sont des matières organiques.
Oui, le bois est quelque chose qui se conserve très très mal quand on le laisse à l'air libre, surtout quand il est égorgé d'eau. Ça pose des problèmes de conservation. On le voit bien d'ailleurs avec la première épave qui a été trouvée ici à la Bourse en 67 ou 68. Mais ça a été le cas aussi pour les épaves de la place Jules Verne, les bateaux grecs de la place Jules Verne qui ont, il a fallu stabiliser. Là, le problème est un peu différent parce que d'une part, le bateau est beaucoup plus récent puisqu'il date, il daterait d'après notre collègue archéologue naval et architecte naval, il daterait de la fin du XVIIIe siècle. Donc le bois est de bien meilleure qualité, il est surtout beaucoup mieux conservé. Il est tellement bien conservé quand on a travaillé pour extraire la plus belle des 3 épaves, pour qu'elle soit exposée, on espère, plus tard au musée ici. On a foré des trous dans le bois, et quand on a senti la sciure, elle sentait encore la résine de pin, pour les parties qui étaient en pin. Donc le bois est de l'avis en fait, de la personne qui a travaillé avec nous, José Cano, qui lui est architecte naval. Il est dans un état de conservation absolument extraordinaire.
Il y a aussi des chaussures en cuir, des chaussures en tissu, qui sont dans vos vitrines.
Ben oui, parce que en fait, finalement, si l'idée de départ c'était un peu de trouver des épaves, ça c'était un petit peu notre, c'était un peu notre cerise sur le gâteau de trouver des épaves. Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est aussi qu'on y a trouvé des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'objets que normalement on ne trouve pas en fait dans les fouilles archéologiques terrestres, parce qu'elles se conservent pas. Alors évidemment, le bois, on vient de le dire, ça se conserve pas très très bien. Le cuir, ça se conserve encore moins bien. Et on y a aussi trouvé des graines, par exemple. On y a trouvé des cordages, on y a trouvé de la vannerie. Alors il y a des chaussures en tissu. Alors, on a trouvé des fragments de vêtements d'ailleurs aussi, mais vraiment par dizaines et ou voire par centaines d'exemplaires. Donc ça, c'est exceptionnel parce que ça nous permet de documenter la vie quotidienne des Marseillais dans une période qui est très mal connue, paradoxalement, parce qu'elle est très proche de nous. On a énormément de textes, c'est des textes d'archives, de notaires, de choses comme ça. On en a beaucoup, on en a presque trop. Donc en fait, on a un peu du mal à se rendre compte de ce qu'est la vie quotidienne aussi proche de nous. Faut, voilà, c'est 1850, c'est il y a 150 ans, un peu plus hein, quand même. Faut pas, voilà. Donc c'est très proche et c'est très mal connu. Donc là, on a une documentation archéologique qui est absolument extraordinaire. On a des cuillères, des fourchettes en bois. On a un blaireau, enfin ce qu'on pense être un blaireau pour se raser, un fragment de flûte, des toupies, un petit bout de ce qui était probablement, le bras de ce qui était probablement une petite poupée en bois, en tout cas une figurine ou un jouet. Voilà, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de documenter tout ce pan de la vie des Marseillais qu'on connaît mal.
Alors cette vie quotidienne justement, peut-être des monsieur et madame tout le monde, je ne dis pas des humbles, mais enfin des Marseillais, est-ce que vous avez fait des études? Est-ce qu'il y a eu des conclusions, des suites à ces fouilles?
Alors pour l'instant, on est encore en train de travailler dessus. Il faut quand même qu'on écrive le rapport et il y a une telle quantité d'objets qu'il faut qu'on prenne le temps pour les observer, pour les montrer à des spécialistes qui nous en disent un peu plus, qu'on ait aussi nos collègues archivistes et historiens qui fassent leur travail en archives et qui nous en disent un peu plus sur tout ce qu'il pouvait y avoir comme ne serait-ce que les petites industries qui pouvaient se situer autour. On sait qu'on a les raffineries de sucre qui se trouvaient dans ce quartier, on a pas mal de tanneries qui étaient là. Le Capitole accueillait, alors ça, jusqu'à ce moment-là, accueillait ce qu'on appelait la tuerie, c'est-à-dire en fait les abattoirs de Marseille. Donc il y a beaucoup de petites industries qui avaient forcément des ouvriers qui travaillaient là-dedans, des gens qui vivaient dans le quartier. On est en bas du panier, hein, il faut pas oublier ça. Donc c'est tout, ça a toujours été un quartier très populaire. Et on espère en apprendre plus par les archives et que ça nous renseigne un peu sur tous ces objets qu'on a trouvés, d'où est-ce qu'ils viennent, à qui ils servaient. On a trouvé deux sabots, bon, qui vont pas ensemble, hein, mais on s'est rendu compte simplement en regardant une carte postale ancienne que sur les bateaux, les marins, les pêcheurs, ils portaient des sabots. Et des espadrilles. On a donc une espadrille. On a tout la caisse, enfin tous les aussi le petit outillage qui servait à ravauder les filets. On a les épissoirs qui servent à rabouter les cordes entre elles, à faire ce qu'on appelle une épissure, c'est d'où le nom d'épissoir. Donc on a tout ça qui va nous renseigner sur la vie des gens, du commun du mortel, à cette période donc dans la première moitié du 19e siècle et un petit peu avant, de ce quartier de Marseille. Et puis on espère étendre un petit peu au reste de Marseille finalement.